Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
J'ai choisi de vous raconter l'une des plus formidables aventures du XXe siècle, la première traversée de l'Atlantique en avion entre New York et Paris en mai 1927 par un homme seul à bord qui s'appelait Charles Lindbergh et qui était américain. C'est une histoire en deux épisodes. Vous trouverez le premier épisode sur votre application de podcast ou sur europe1.fr. Et voici le deuxième épisode. Nous le débrieferons comme le premier avec la présidente de l'Aéroclub de France, double championne du monde de voltige, Catherine Monoury. J'ai écrit cette histoire avec Tuguel de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans le premier épisode, en septembre 1926, le pilote américain Charles Lindbergh décide de se lancer dans le premier vol transatlantique entre New York et Paris. Pour cette aventure, il acquiert un avion de la Ryan Airlines, beaucoup moins cher que les avions qu'on lui a proposés. À quelques jours de son décollage, il apprend que deux pilotes français, Ningesser et Colly, sont partis avant lui de Paris. Mais depuis, ils ont disparu. Nous sommes le 20 mai 1927. À bord de son avion, le Spirit of Saint-Louis, Charles Lindbergh vient de décoller en direction de Paris. Je suis maintenant assez haut pour jeter un coup d'œil sur le tableau de bord. Aucun signe d'échauffement. Je réduis légèrement les gaz, 1750 tours minute. Si le Spirit of Saint-Louis peut tenir à 1750 tours avec cette charge, j'ai plus d'essence qu'il m'en faut pour gagner Paris. Je vois à 5 km devant, pas davantage. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile? Est-ce que, quand j'atteindrai Long Island, je vais tomber sur un horizon bien clair? Ou est-ce que je vais buter sur une muraille impénétrable? Je vais descendre. J'aurai une visibilité bien meilleure. Tiens, voilà les grandes propriétés de Long Island. Oups, je suis peut-être un peu trop près de la cime des arbres. Aïe, je ne suis plus sûrement au cap. Correction 3 degrés à gauche. Et là, qui voilà? Un avion de presse, ça alors? Je n'avais jamais pensé que des journaux loueraient des avions pour me suivre. Je vois les caméras pointées vers mon poste de pilotage. Moi qui pensais être seul en l'air. Ça y est, la côte de Long Island s'efface derrière moi. Me voilà enfin seul, au-dessus de la première étendue d'eau salée sur la route de la France. Pas un bateau en vue, seules quelques mouettes en dessous de moi. Je ne me suis jamais aventuré si loin en mer, jamais. Je suis content que ce vol vers Paris ne soit pas devenu une course. Et puis, quel avantage il y a à voler seul. La liberté. Je n'ai pas à tenir un compagnon au courant de mes plans. Je suis libre. Là, il faut que je monte à 150 mètres. Et que je sorte mon périscope. Ça me sert à voir la terre devant moi sans me pencher dehors, à déceler les cheminées, les pylônes de radio qui sont sur ma trajectoire. Ça fait maintenant 2 heures que je vole. Tiens, voilà Cap Cod sur ma droite. Et derrière mon aile gauche, les fumées de Boston. Et devant, de l'eau. Rien que de l'eau. La véritable épreuve commence ici. Dans les 2 heures qui viennent, jusqu'à la Nouvelle-Écosse canadienne, je n'aurai aucune terre en vue. Et si je descendais vers les vagues, si je rendais visite à l'océan pour, en quelque sorte, solliciter sa bienveillance? 30 mètres, 15 mètres, 6 mètres. Je descends jusqu'à ce que mes roues soient à moins de la taille d'un homme au-dessus de la houle. presque à toucher les vagues, jusqu'à une sorte de coussin d'air au-dessus duquel mon avion avance avec moins d'effort. J'attaque ma quatrième heure. J'ai consommé 136 kilos d'essence. Je me sens un peu fatigué. Et le soleil chauffe trop la carlingue. Est-ce qu'il faut que je retire ma combinaison fourrée ? L'enlever serait facile. Mais cette nuit, il fera froid. Et la remettre sera plus compliquée. Alors je me contente d'ouvrir ma fermeture éclair. Je bois un peu d'eau. J'ai 5 sandwichs sous mon siège. Mais je n'ai pas faim. Et puis, en gardant mon estomac vide, je maintiens mon alerte. Je ne me suis pas assez reposé avant de partir. Me voilà à moitié endormi. Alors je mets les mains à l'extérieur pour diriger de l'air vers mon visage. Ça va mieux. Midi, j'attaque ma cinquième heure de vol. Et voilà la Nouvelle-Écosse. Je vais enfin savoir si j'ai bien suivi ma route. J'en oublie la fatigue. Je m'étais fixé des points de repère au sol. C'est bon, je n'ai pas fait d'erreur. J'attaque ma sixième heure. C'est l'heure du déjeuner. Mais est-ce que je vais manger uniquement parce que c'est l'heure ? Une gorgée d'eau me suffira. Sauf qu'en raccrochant le bidon, je fais glisser ma carte vers la portière. Et là, une bouffée de vent manque de l'emporter. Imaginez qu'elle se soit envolée avec tous mes chiffres. Je ne saurais plus comment regagner Paris. Il faudrait que je fasse demi-tour. La carte ne doit jamais être posée près d'une fenêtre. Ça fait plus de 8 heures maintenant que je suis en vol. Et je n'ai plus rien à faire jusqu'à ce qu'apparaisse la côte de Terre-Neuve. J'adopte une position plus confortable sur mon fauteuil en osier. Nom de Dieu, le sommeil commence à me gagner. Il prend des forces de minute en minute. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus rien à regarder sauf la mer ? Aucun contraste pour fixer l'attention. Si je pouvais me jeter sur un lit, je m'endormirais instantanément. Mes yeux sont lourds comme des pierres. Alors je résiste pendant une minute ou deux et après, je laisse une paupière se fermer, tandis que l'autre reste ouverte. Faut beaucoup de volonté pour ça. Qu'est-ce que ça va être cette nuit ? Et demain matin à l'aube ? J'ai effectué le premier quart de mon voyage, 1280 km derrière moi. Et la nuit arrive. C'est une sorte de trou dans mes plans de navigation. J'ai passé des heures à y réfléchir. Si tu avais un sextant, Charlie, tu pourrais grimper au-dessus des nuages pour apercevoir les étoiles. Tu as fait une erreur de ne pas emporter de sextant. Mais non, je n'aurais pas pu piloter en même temps. La vérité, c'est que tu n'as jamais essayé. Tu as cru les autres sur parole. Ah mais non. Non, j'ai pris l'avis de spécialistes. La plupart des spécialistes, Charlie, disaient que tu ne pourrais pas faire ce vol. Et tu ne les as pas crus. Mais je te dis que je ne pourrais pas utiliser un sextant. Et puis, il y a la question du poids. Enfin, si j'avais essayé d'emporter toutes les sécurités, l'appareil n'aurait jamais décollé. Enfin, c'est ridicule, Charlie. Un sextant ne pèse que 2,5 kg. Il faut que j'arrête de discuter avec moi-même. Je gagnerai l'Europe par des relèvements à vue, ou je n'y parviendrai pas. J'attaque ma 10e heure de vol. L'avion s'est allégé de 365 kg d'essence. Il est souple. Le manche répond à la moindre pression de ma main, à mon moindre caprice. début de ma 14e heure. Plus de 2000 km parcourus, encore 3700. J'ai des nuages à quelques dizaines de mètres au-dessous de mes roues. Plus de doute, je vais droit vers un orage. Mais quel genre d'orage? De quelle ampleur? De quelle hauteur? À quelle altitude montent les nuages d'orage? Mon appareil surchargé aura-t-il assez de plafond pour passer au-dessus? Je vais essayer. Je vais monter jusqu'à 4500 mètres, pas plus. Au-dessus, mon moteur perdrait de la puissance. Et le manque d'oxygène me rendrait moins sensible. Et si les nuages dépassent 4500 mètres, eh ben tant pis. Je m'enfoncerai dans le corps de l'orage. Me voilà à 3000 mètres. Il fait très froid. Alors j'enfile mes gants et mon casque doublé de laine. Et je me retrouve au milieu de montagnes de nuages. Impossible de passer au-dessus. Tant pis, je n'ai pas d'autre choix que d'aller droit devant. Mais quand j'entre dans le nuage, les ailes frémissent, de violents remous secouent l'avion dans tous les sens. Et plus d'étoiles au-dessus de ma tête pour m'aider à tracer ma route. Autour de moi, tout est noir. Il fait froid, très froid. Alors je sors ma torche électrique et j'éclaire le bord d'attaque de l'une de mes ailes. J'y vais, il faut changer de route. Il faut mettre mon avion en perte de vitesse dans un virage pour sortir de ce nuage, pour retrouver le ciel clair. Doucement, Charles, doucement. Il est toujours facile d'amorcer un virage en piqué, mais beaucoup moins facile d'en sortir. L'avion peut absolument échapper à ton contrôle. D'accord, mais si l'indicateur de virage givre, je perdrai le contrôle de toute façon. Pour la première fois, la pensée de faire demi-tour me traverse l'esprit. J'attaque ma 16e heure de vol. J'ai parcouru 2410 km. Je suis à mi-chemin de l'Europe. Pas de Paris, hein, mais de l'Irlande. L'Irlande est devenue dans mon subconscient un objectif plus réel que Paris. Si je parviens en Irlande, j'arriverai à Paris. J'en suis sûr. Huitième heure de vol. Il me reste 3050 km à franchir. Quand apparaissent les premières lueurs du jour, le besoin de sommeil me tombe dessus comme une chape de plomb. Il est presque insurmontable. Je sais que c'est le début de ma plus dure épreuve. J'ai complètement perdu le contrôle de mes paupières. Je n'ai plus qu'un seul désir au monde. Me jeter par terre, m'étendre et dormir. Et pourtant, il faut que je reste éveillé. Parce que sinon, c'est la mort et l'échec. La mort et l'échec. La mort et l'échec. Cette pensée me sert de fouet. Mais en réalité, à ce moment-là, ça n'est pas de force dont j'ai besoin. C'est de sommeil. De sommeil. Alors j'enlève mon casque. Je me frictionne la tête, je bois un peu d'eau. Et si je mangeais un sandwich? Je n'ai rien mangé depuis hier matin. Non, je n'ai pas faim. J'aurais dû emporter un thermos de café. Ça m'aurait aidé à me tenir éveillé. Mais je n'ai pas non plus envie de café. Et si je traversais les nuages pour aller voler au ras des vagues? Peut-être que ça m'aiderait à rester éveillé. C'est ce que j'ai fait hier, ça a marché. Mais pour l'instant, le jour n'est pas encore assez fort. Il fait trop sombre pour voler près de l'eau. Je descendrai dans une heure. Je lutte toujours contre le sommeil. Me secouer, frapper des pieds ne me suffit plus. Et si je plongeais dans les nuages? Si je poussais le manche vers l'avant? Voilà! Et ensuite je me redresse. Hop! Ça me réveille un peu. Mais ça n'est pas efficace bien longtemps. À ce moment-là, en vérité, il y a trois personnes en moi. Mon corps, qui n'a qu'un seul désir, dormir. Mon esprit qui prend des décisions auxquelles mon corps refuse d'obéir. Mais mon esprit commence à perdre sa fermeté. Mais il y a autre chose, une troisième personne en moi. Quelque chose de plus vigoureux, une sorte de force directrice qui est sortie de mon subconscient et qui contrôle à la fois mon esprit et mon corps et qui veille sur moi comme un père attentionné. Quand mon corps lui crie « Il faut dormir, Charlie, il faut dormir !» Ma force directrice répond avec colère qu'il faut se reposer, se détendre, mais qu'il n'est pas question de dormir. Le sommeil, Charlie. Le sommeil, c'est la chute. Le sommeil, c'est l'engloutissement dans l'océan. Je suis à mi-chemin. Distance parcourue, 2895 km. Distance à parcourir, 2895 km. Je m'étais dit... Tu fêteras ça comme un anniversaire. Tu mangeras un sandwich, tu boiras une gorgée d'eau supplémentaire. Mais je n'ai rien envie de tout ça. Ça y est, voilà le matin. Je vais pouvoir descendre vers l'eau. Mais en dessous, il n'y a que de la brume. Si je descends à travers ces nuages, où je m'arrête? À 600 mètres, à 450 mètres, à 300 mètres. Je ne suis pas certain par ailleurs que mon altimètre soit bien réglé. Tant pis, j'y vais. Je sais que je descends à environ 60 mètres à la minute. Et ça y est, je vois l'océan. Me voici à 600 mètres au-dessus. Et la mer est très agitée. C'est la tempête. 300 mètres, 150 mètres. Et maintenant, 15 mètres, juste au-dessus d'énormes vagues couronnées d'écume. Ce serait un endroit effroyable pour me poser si mon moteur lâchait. Mais non, Charlie, tu ne peux pas t'étendre pour dormir. Frotte tes yeux, Charlie. Secoue la tête, Charlie. Charlie, reviens! Reviens, Charlie! Je me suis endormi, les yeux ouverts. Je suis sûr qu'ils étaient ouverts. Mais j'ai l'impression de me réveiller. Si le vent se maintient, dans 8 heures, j'atteindrai l'Irlande. Ça n'est pas bien long, 8 heures. C'est juste une journée de travail. Qu'est-ce que c'est, ça, sous mon aile gauche? On dirait une côte, des bouquets d'arbres, des falaises rocheuses. Enfin, c'est pas possible, je suis au milieu de l'Atlantique. Mes compas se seraient-ils déréglés? Je serais au-dessus du Labrador ou du Groenland? J'aurais volé vers le nord et pas vers l'est? Ou alors c'est un mirage? Mes yeux se ferment. J'ai perdu le contrôle de mes muscles des paupières. Il ne me reste plus qu'un moyen. Un moyen auquel je n'ai pas eu encore recours. Je me frappe la figure. Et je me frappe encore, mais c'est sans effet. Il faut déchirer cette toile d'araignée du sommeil. C'est une question de vie ou de mort. De mort, Charlie. De mort. Il ne me reste encore qu'une seule solution. L'air. Alors je passe carrément la tête dehors. Et ça me fait comme un sentiment de vertige. Est-ce que je vais m'évanouir? Je suis trop près de l'eau pour lâcher mes commandes un seul instant. Que Dieu me donne la force. « Je suis à 25 heures du New York. Si je suis trop au sud, est-ce que je vais manquer l'Irlande ? Vingt-sixième heure et demie. Si je n'ai pas vu de terre d'ici 3 heures, il faudra que j'oblique vers le nord. Oh ! Un bateau ! Ça veut dire que la côte de l'Europe n'est plus très loin. Je vois ses mâts et sa passerelle. Mais où est l'équipage ? Il n'y a pas de signe de vie sur le pont. Ah ! Un autre bateau ! Son pont est vide aussi. Mais je vois une tête d'homme qui apparaît. Alors je descends à moins de 15 cm de sa passerelle. L'Irlande ! L'Irlande, c'est dans quelle direction ? Mais sur le visage de ce pêcheur, je ne vois aucun signe de compréhension. Il ne parle peut-être pas anglais. Enfin, pourquoi les marins ne montent pas tous sur le pont de ce bateau pour voir mon avion ? La côte doit être quelque part par là. Ces bateaux sont trop petits pour être au large. 28e heure. Ce que je vois à l'horizon, là, c'est un nuage ? C'est une couche de brume ou ça pourrait être la Terre ? J'ai passé Terre-Neuve il y a 16 heures. Je m'étais donné 18h30 pour atteindre la côte d'Irlande. J'aurai donc 2h30 d'avance. Il est matériellement trop tôt pour que ce soit l'Angleterre, la France ou l'Écosse. Et pourtant, c'est bien la Terre. Le littoral a l'air dentelé. Il y a des prés très verts. Ça ne peut être que l'Irlande. Je vois une baie avec une île longue et un village. Alors je regarde ma carte. Ça serait Dingle ? Dingle Bar, sur la côte ouest de l'Irlande ? Je descends. Il y a des barques dans le port. Il y a des voitures sur la route. Et il y a des gens. Des gens qui courent dans la rue en regardant le ciel. Ils me font de grands gestes. C'est Dingle ! Plus que 965 kilomètres jusqu'à Paris. Mon besoin de sommeil s'est complètement évanoui. La pensée de m'étendre sur un lit de plumes a perdu toute séduction mortelle. Je suis éveillé comme si je m'étais envolé ce matin. Le temps n'est plus sans fin et l'horizon n'est plus sans espoir. Au beau milieu de mon euphorie, le moteur se met à secouer violemment l'avion. Je suis traversé comme par une décharge électrique. L'échappement qui était si régulier commence à avoir des ratés. Et ça, je le crains, c'est l'annonce d'un atterrissage forcé. Est-ce que je ne me suis pas montré trop confiant, trop orgueilleux ? Mais non, allons Charlie, c'est pas grave. Et d'ailleurs, le moteur repart et le bafouillage cesse. Trentième heure. Je suis à un peu plus de 4 heures de Paris. Je peux y arriver avant la tombée de la nuit. Et à en juger par mon réservoir, j'ai assez d'essence pour atteindre Rome. Trente et unième heure. Je survole maintenant l'Angleterre, la Cornouaille, avec ses fermes miniatures. Mais enfin, comment un fermier peut-il arriver à gagner sa vie avec des champs aussi petits ? Tiens, voilà la côte de la Manche. Plus qu'une heure de vol. Paris est à 480 km devant moi. Dans moins d'une demi-heure, j'aurai la France en vue. La voilà ! La côte de France. La côte de La Hague. Elle avance vers moi comme une main tendue. C'est de là qu'il y a 13 jours, Nage et ses colis ont mis le cap à l'ouest. Jusqu'où sont-ils allés ? Pourquoi ont-ils disparu ? À cause d'une panne de moteur ? D'une tempête ? Du manque d'essence ? Sont-ils encore vivants ou morts ? Je n'ai jamais réfléchi à ce que je ferais à mon arrivée au Bourget. Bien sûr, je ferais mettre le Spirit of Saint-Louis dans un hangar. Et puis, j'enverrai un télégramme aux États-Unis pour dire que je suis arrivé. Et puis, il me faudra trouver un endroit où passer la nuit. Sauf que je ne sais pas un seul mot de français. Et je suis tellement en avance que personne ne va m'attendre. En revanche, je suppose que le lendemain, des quantités de gens viendront à l'aéroport pour voir l'avion. Ça sera amusant, ça. J'adore montrer mon avion. Et puis plus tard, je tâcherai de trouver un jour ou deux pour me promener dans Paris. Au fait, comment est-ce que je vais rentrer aux États-Unis ? Je pourrais continuer. Je pourrais faire le tour du monde. Ou alors je refais la route en sens inverse. En tout cas, rentrer en Amérique en bateau serait en dessous de la dignité du Spirit of St. Louis. Trente-troisième heure. Je franchis la côte au-dessus de Deauville. Dans une heure, je verrai les lumières de Paris. Alors je descends pour voir les villages et les fermes. Elles sont plus grandes qu'en Angleterre. Je vois des gens qui sortent des maisons quand je rase leurs toits. Bon, maintenant, il est temps de prendre le manche entre mes genoux et de sortir un sandwich. C'est mon premier depuis le décollage. Je suis tenté de jeter le papier dehors, mais non. Ça serait une honte de salir ces champs si propres. Je ne peux pas manquer Paris. Même si pour l'instant, je ne trouve aucun point de repère. Ah ! Un éclat lumineux qui jaillit de l'obscurité. C'est un phare aérien. Et en voici un autre qui clignote plus faiblement. Personne ne m'avait dit que la route entre Londres et Paris était balisée. Qu'est-ce que c'est que cette colonne de feu dirigée vers le haut ? C'est la tour Eiffel ! Je vais décrire un cercle au-dessus et je mets le cap sur le Bourget. Mais le Bourget ne figure pas sur ma carte. On m'a dit, tu peux pas le manquer, Charlie. Il est au nord-est de Paris. Ben, ça doit être ça, là. Cette tache noire entourée de points lumineux. Alors, je sors ma lampe de poche. Je la dirige vers le sol. J'envoie un message. Pas de réponse. Je décris un cercle. C'est bien un aérodrome. Est-ce que c'est le Bourget ? Qu'importe, au fond. Je vais passer à basse altitude pour vérifier que le terrain est bien dégagé. Et ceux d'en bas verront que je veux atterrir. Et sans doute allumeront-ils leur feu. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne vais pas tourner plus longtemps. Je plonge vers le sol. La zone éclairée est juste devant moi. Je passe à toucher les toits des hangars. Pas un mouvement au sol. Alors du coup, j'hésite à faire des chandelles au-dessus des hangars pour célébrer mon arrivée. Je suis à 400 mètres de la piste. Je n'ai jamais encore atterri dans ces conditions, jamais. Et je n'ai jamais atterri de nuit avec le Spirit of St. Louis. Je suis trop haut. Je vais trop vite. Il faut que je fasse une nouvelle présentation. Voilà. Retenir. Les roues touchent légèrement le sol, elles redécollent. Elles touchent à nouveau le sol, la béquille touche aussi. Je roule trop vite. Un pneu peut éclater. Mais ça y est, le Spirit of St. Louis repose sur la solidité de la terre. Mais que se passe-t-il ? En fait, tout l'aérodrome est recouvert de gens qui accourent. Je ne suis pas du tout préparé à ça. Et maintenant, j'ai plein de têtes au-dessus de moi. Le Spirit of St. Louis frémit sous la pression de la foule. Et j'entends craquer un bois derrière moi, et puis un deuxième craquement. Et la toile, je l'entends se déchirer. Is there any mechanic here? Je ne comprends pas un mot de ce qu'on me répond.
Is there anybody speaking English there?
J'ouvre la porte. Je pose le pied au sol. Et là, des douzaines de mains s'emparent de moi, de mes jambes, de mes bras, de mon corps. Et je me retrouve couché au-dessus de la foule. Et je sens qu'on m'arrache mon casque. Et je me retrouve enfin sur mes pieds, debout, sur le sol d'Europe.
Vous avez faim, monsieur Lindbergh ? Vous avez soif ? Besoin d'un médecin ? Vous voulez peut-être vous étendre ? Non ? Non, thank you. Il faut que je fasse des formalités, sans doute, pour la douane ou la police. Mais non, monsieur Lindbergh.
Quand je vais me coucher, Il est 4h30 du matin. Je n'ai pas dormi depuis 63 heures. Et quand je me lève, j'entre dans une vie qui n'aurait pas pu être plus étrange si j'avais débarqué sur une autre planète. Et voilà pour le deuxième épisode de cette saga de Charles Lindbergh, le pilote américain, entre New York et Paris. En mai 1927, il a été le premier homme à rallier New York à Paris sans escale à bord d'un avion qui s'appelait le Spirit of Saint-Louis. Et pour débriefer cette histoire que j'ai, je le signale au passage, écrite avec le livre que Charles Lindbergh a publié lui-même qui s'appelle « 33 heures ». Pour Paris, qu'on ne trouve plus actuellement en librairie. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas été réédité, mais que vous trouverez facilement sur le marché du livre d'occasion. Catherine Monory, vous êtes donc double championne du monde de voltige. Vous êtes une femme qui connaît l'avion. Moi, je suis très touché par la scène de fin, parce que voilà un homme qui pense qu'il va atterrir dans l'indifférence générale et qui est très surpris de trouver une foule à l'arrivée. Comment ça se fait d'ailleurs que tous ces gens soient là ?
Bien, je pense qu'ils ont été prévenus qu'ils passaient, puis c'est vraiment un exploit. Depuis longtemps, on a déjà traversé l'Atlantique quelque part, par petits bouts, mais relier New York à Paris ou Paris à New York, ça a une grosse portée symbolique. Les continents se rapprochent, on dit les hommes vont se sentir voisins maintenant. Il y a quelque chose qui se passe.
C'est le début de la mondialisation.
C'est le début,
en fait.
Oui, c'est le début. Ouais. Et puis, ça a un impact terrible. Et puis Lindbergh est charmant, il est tout jeune, il est modeste, justement, il est tout simple. Je crois que ça va déclencher un phénomène de passion du public.
Alors, son avion est un peu endommagé d'ailleurs par ce public, ça, on en tremble pour lui.
Parce que lui, en fait, quand il arrive, il dit, ce que je vais faire, je vais mettre mon avion dans un hangar, je vais tout de suite protéger ma machine.
Oui.
Et en fait, il entend les craquements, les gens qui appuient trop fort, et certains qui déchirent des bouts de toile.
Oui. Pour avoir des souvenirs.
Ouais, pour avoir des souvenirs, ça c'est assez abominable.
Donc il va devoir le réparer lui-même sur place, parce qu'à partir de là, alors il savait pas trop ce qu'il allait faire après, et il va quand même faire une petite tournée européenne, il va aller à Londres.
Oui, il va passer en Belgique.
Et partout, il est accueilli en héros.
En héros, absolument partout, oui. Et il fait des discours, son premier discours est pour l'Aéroclub de France. Et il fait des petits discours simples qui vont bien. Quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est aussi demander des nouvelles de Nagesser et Colly.
Oui.
Et il va le dire à l'Aéroclub de France, et il va dire, vous savez, ils ont fait quelque chose de plus difficile que moi, parce qu'ils avaient les vents contraires. Et c'est vrai. Eux, ils avaient au moins 3 heures de plus. C'est plus difficile. D'ailleurs, il faudra du temps pour le refaire dans l'autre sens, ce Paris-New York.
Et il va même demander au président du conseil de l'époque d'aller rencontrer la veuve de Nagesser.
Et sa maman.
Et sa maman.
Oui. Il est très attentionné.
Et ça surprend tout le monde, ça.
Oui, parce qu'il le dit quelque part aussi, l'aviation, il mène une vie vraiment de bohème. Lui, il se trimballe, il fait du cirque aérien. Enfin, c'est un pilote qui se promène partout, tout le temps. Et il dit, mais on n'est jamais seul quand on est pilote, parce qu'il y a une espèce de communauté. Partout où vous allez, il y a une telle passion que vous rencontrez toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui aime l'aviation.
Et ça dure aujourd'hui, d'ailleurs, encore.
C'est toujours valable.
Ouais.
C'est toujours valable. C'est un monde de passion. Et oui, il va faire ça. Il va rencontrer aussi Blériot, parce qu'il est quelque part le nouveau Blériot. La première traversée qui a marqué,
c'est Blériot à travers la Manche.
Ça a traversé la Manche pour aller en Angleterre, où l'Angleterre n'est plus une île. Et maintenant, l'Amérique est voisine. Et ça va conforter les liens d'amitié. Les États-Unis et la France sont légèrement froids à ce moment-là, et ça va complètement effacer tout ça. C'est un tel bonheur.
Alors, comment va rentrer le Spirit of Saint-Louis, finalement, aux États-Unis, vous le savez, vous ?
Finalement, je pense qu'il va rentrer avec lui en bateau.
En bateau, oui. Il est rentré par bateau militaire, l'USS Memphis, jusqu'aux États-Unis. Vous savez où il est conservé aujourd'hui, cet avion ?
Oui, bien sûr, il est au musée Smithsonian, mais il est au musée de l'air et de l'espace de Washington.
Alors, il faut quand même dire que ça va être une immense vedette pour son époque jusqu'aux années d'avant-guerre, parce que il va commettre une grosse erreur avant la guerre, parce qu'il va à Berlin et il se prend de passion pour Adolf Hitler.
Il trouve que ça va avec sa nature qui est quand même très qui travaille beaucoup, qui voit tous les détails, tout ça. Il est impressionné par l'état de l'aviation
allemande.
allemande et il se laisse entraîner malheureusement à trouver que Hitler est quelqu'un de très bien et après il va être à la tête d'un mouvement dissocial pour que l'Amérique ne rentre pas dans la guerre.
Oui, America First.
Le slogan qui a été repris par
Trump. Ouais.
Donc c'est dommage et il lui faudra Pearl Harbor pour changer d'avis et vouloir se réengager, mais il va finir quand même par être nommé général, mais il est mis à l'écart.
Il combat pas vraiment pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Un petit peu.
Il
est conseiller technique. Il va d'ailleurs être conseiller technique. C'est un extraordinaire mécanicien, technicien. Il va essayer des centaines d'avions. Il va être conseiller de la Paname. Et c'est lui qui va faire acheter les Falcon, qui va dire We have the bird. Et qui va faire d'assaut, acheter les avions d'assaut. Oui, il va conseiller la Paname d'acheter les avions d'assaut.
Il va payer très cher sa notoriété, ça on peut le dire, puisque son fils va être enlevé.
Oui.
Contre une rançon, le petit Charles, et on va le retrouver mort.
Et on va le retrouver mort parce qu'il semblerait qu'il l'ait d'ailleurs fait tomber dès quand ils l'ont enlevé, et qu'il a sans doute été tué sur le coup. Donc
assez vite d'ailleurs après l'exploit, puisque ça se passe en 1930.
Oui, ça va vite.
Faudra que je regarde si je peux pas raconter l'histoire de l'enlèvement.
Oui, c'est une histoire et qui va forcément, ils vont avoir beaucoup d'enfants, et puis ça va probablement peut-être aussi le rendre plus dur et faire qu'il évolue pas très bien.
Il y a un truc qui me surprend beaucoup, moi, c'est qu'il ne mange pas. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire qu'il vole 33 heures en buvant de petites gorgées d'eau, point.
Eh bien, je peux le comprendre tout à fait. Parce que, quelque part, l'organisme, quand on commence à manger, on a refaim un petit peu plus. Et c'est sans doute moins dur de rester sans manger du tout. Et qui plus est, comme il s'endort, dès qu'il y a un petit peu de nourriture dans l'estomac, on a encore plus envie de dormir. Je pense que c'est pour lutter contre ça, et ça permet d'avoir l'esprit plus clair. Et s'il a rien mangé du tout, eh bien finalement, l'organisme supporte beaucoup mieux que s'il avait pris... Ça aurait été catastrophique s'il avait mangé du sucre juste avant de partir.
Voilà, faut pas amorcer.
Pas amorcer. Et tant que vous n'avez pas amorcé, vous pouvez tenir très longtemps.
Ah, y a une chose aussi qui est très étonnante, c'est qu'à plusieurs reprises, il descend pour voler près de l'eau, mais quand je dis près, il descend au-dessus des vagues, à toucher quasiment les vagues. Il y a une part romantique là-dedans, l'envie de s'approcher de l'élément, mais stratégiquement, c'est une bonne idée, ça.
Alors, je pense que ça le réveille un petit peu, ça lui fait voir quelque chose de vivant.
Oui.
Alors, il a beaucoup d'essence, c'est ça qui lui permet ça. Probablement maintenant, on sait qu'on consomme beaucoup moins, plus on est haut, moins on consomme, mais finalement, il peut se permettre de consommer, puisqu'il va avoir de l'essence en arrivant. Et ça lui permet sans doute un peu de joie de pilote, un peu de voir, un petit peu d'avoir plus chaud, un peu de faire tomber le givre, parce que ça, le moment le plus dangereux, c'est probablement...
C'est quand il y a ce givre sur l'aile gauche.
Ça, c'est une catastrophe, ça pouvait arriver à la perte de contrôle de l'avion très vite, parce que le givre va changer le profil de votre aile, peut se mettre sur les pales d'hélice, peut se mettre partout et paralyser votre avion. Ça, c'était affreux. Il a pensé à rentrer.
Il a pensé à faire demi-tour à ce moment-là.
Et effectivement, il se dit, il faut sortir de là, mais il faut le faire doucement. Et il y a le petit diable et l'ange qui lui disent, fais ça très doucement. Mais il dit, là, c'est mon esprit qui dirige et toi, le corps, tu dis rien. Il ne faut pas se précipiter parce que si je me précipite, je fais un faux mouvement et je vais partir en perte de vitesse.
La descente en piqué, ça, c'est votre spécialité.
La descente en piqué, ça, c'est pas mal, mais il ne faut pas partir ce qu'on appelle en virage engagé. Il y a un danger, s'il est en virage, de ne plus le contrôler. S'il ne voit pas le sol, avec simplement ses instruments de contrôle qui sont très rudimentaires, il ne peut pas se permettre d'avoir un mouvement un petit peu violent, parce que dans le nuage, il le sait, on a des impressions fausses. Donc il faut croire ce qu'on voit sur les instruments et pas se dire, pouvait avoir l'impression d'être extrêmement incliné à droite, et en fait, pas du tout. C'est faux, c'est le cerveau, c'est les gyros du cerveau qui fonctionnent mal. Et donc, il se force à suivre ses instruments. Je ne dois pas. Toi, tu arrêtes de me dire qu'il faut vite sortir de là, que c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais c'est encore plus dangereux d'aller trop vite pour le faire.
Il faut le faire calmement. C'est vrai qu'il y a un coussin d'air, une sorte de coussin d'air quand on est au-dessus de l'eau?
Ça peut-être arriver, mais c'est pas logique de rester trop bas tout le temps, parce que quand vous êtes plus haut, vous avez quand même un peu plus de vue, un peu plus... Normalement, si la météo est bonne. Vous voyez un peu plus loin, vous dominez, c'est moins dangereux. Là, quand il est très fatigué, être tout près de l'eau, en quelques instants, il peut toucher. Je pense que c'est une façon d'être plus réveillé pour justement, comme il voulait cet avion instable, conjurer le sort, se dire « Non, je suis obligé, parce que sinon c'est la mort, il n'y a que ça qui le réveille. » Il se dit « Mais je meurs si je m'endors. »
Alors surtout, ne pas imaginer qu'il voit quelque chose, qu'il y a un pare-brise devant lui. Il n'y a pas de pare-brise devant lui. Il a un réservoir d'essence qui lui bouge complètement la vue. Et donc, il est obligé de sortir la tête en vérité ou de sortir son périscope.
Pour le décollage, les avions, vous savez, nous, on a aussi des avions avec des très longs nez, on voit mal devant, beaucoup mieux que lui, mais mal. En réalité, pour le décollage, on arrive à suivre, mais pas quand on n'y voit rien, avec l'angle que font les balises quand vous avancez, et l'angle doit rester le même et vous pouvez regarder sur le côté.
Sur le côté.
C'est ce qu'il fait. Mais quand il se pose, en fait, en plus, il fait noir. Donc il se pose en espérant...
Et c'est très peu éclairé le Bourget.
Très peu.
Il ne le dit pas dans son livre, mais en gros, il trouve que les Français ne sont pas très bien équipés.
On aurait pu lui mettre des voitures, enfin des lumières tout le long pour baliser une piste. Lui.
Parce qu'il y a du monde, donc ils savent qu'il arrive.
Mais c'est un peu en désordre.
C'est français. C'est français. Alors il y a cette scène, moi, que j'adore, qui évidemment, c'est le moment où il descend quasiment à touche-touche avec ce bateau pour demander au marin, c'est où l'Irlande ?
Et son bonheur est extraordinaire quand il voit enfin la terre, c'est-à-dire la vie quand même. Et il sait qu'il va pouvoir réussir. Et là, tout à coup, il n'est plus fatigué. On a quand même des ressorts extraordinaires. À la dernière heure, quand il est tout préparé, il est plus fatigué. Il dit, j'aimerais que ça dure encore un peu. Ouais. C'est une honte d'atterrir si facilement avec autant d'essence, alors qu'il vient de vivre une bataille contre lui-même extraordinaire.
Mais je pourrais aller à Rome, dit-il.
Oh oui, je pourrais aller à Rome. Il a de quoi. Il a de quoi. Et c'est ça quand même qui lui a permis. Parce que quand il voit l'Irlande, à un moment, il est tellement occupé à regarder ses cartes que quand il relève le nez, il n'y a plus rien. Et il se dit, mon Dieu, c'était encore un mirage. Il en a déjà eu. C'est encore un mirage. Eh bien non. En fait, il a, en regardant sa carte et tout, son avion instable a fait demi-tour. Il est en train de repartir quand même vers New York. Il est à 180 degrés. Et c'est là qu'il s'en rend compte. Mais d'avoir de l'essence lui permet toutes
ces fantaisies,
erreurs-là.
Oui, ces erreurs-là.
Et d'ailleurs, à partir de la 19e ou la 20e heure, il n'écrit plus au début toutes les heures. Il note où il en est. Le cap. J'ai encore tant d'essence, je change de réservoir, je suis à telle altitude, il fait tel temps. Et puis, tout d'un coup, il n'en peut plus, puis il dit, après tout, je m'en fiche, j'ai qu'à aller à peu près vers l'est. Il n'a plus le courage. Il met juste réservoirs et réservoirs. Allez, j'ai fait encore une heure sur celui-là. Il n'a plus le courage d'écrire, il n'y arrive plus, ça ne l'intéresse plus, plus assez.
À quel âge est-ce que vous avez commencé, vous, à piloter, Catherine ?
15 ans, j'étais lâchée à 15 ans. Donc, 15 ans.
Est-ce que l'image de Lindbergh était déjà là dans votre tête ?
Oui, lui et Jacqueline Auriol.
Ah hein ? Ça, c'est parce que vous êtes une femme.
Oui, peut-être.
Mais Jacqueline Auriol, qui ?
Qui était première femme pilote d'essai, qui a battu des tas de records, essayé énormément d'avions. C'était très difficile de rentrer dans ce monde, c'était un pilote extraordinaire.
Je vous remercie infiniment d'avoir débriefé cette formidable histoire de Charles Lindbergh. Je rappelle qu'elle est directement tirée d'un livre écrit par Lindbergh lui-même, qui s'appelle « 33 heures pour Paris » et que vous trouverez sur les sites de livres d'occasion. D'abord, les deux épisodes seront accrochés l'un à l'autre par Céline Lebras pour ne former qu'une seule histoire que vous trouverez sur votre application de podcast. Et dès 6h du matin, je vous raconterai une autre histoire. Comme ça, vous serez totalement rassasiés.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Hé, attendez, ne partez pas, j'ai encore quelque chose à vous dire. Vous aimez les histoires incroyables. Vous connaissez celle de l'avocat qui a reçu par la poste une oreille coupée. Vous pouvez l'écouter dans le podcast « Mon client et moi ». Des avocats reviennent sur les affaires criminelles qui les ont les plus marquées, qui ont changé leur vie. Alors écoutez les nouveaux épisodes, c'est simple, il suffit de taper « Mon client et moi » dans votre application de podcast favorite et de vous abonner. Je vous laisse découvrir.